Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Au menu aujourd'hui, nous revenons sur ce programme de du service de police de l'agglomération de Longueuil, le programme qui s'appelle Immersion, qui a fait débat ces jours-ci puisqu'on y mettait en contact des policiers avec un imam, controversé, pour employer le terme que tout le monde emploie, le terme très répandu, en tout cas à son égard. Nous y revenons avec de la visite de l'Assemblée nationale, la députée Catherine Fournier qui sera avec nous un peu plus tard. Également, nous jasons avec Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal, et avec Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro. Des courses à la chefferie, hein, parce qu'on est vraiment dans ça ces temps-ci, notamment du Parti conservateur du Canada. Peter McKay lançait sa campagne ou sa pré-campagne tout récemment, en fin de semaine. Également, course à la direction du Parti libéral du Québec. Là, c'est Alexandre Cusson qui faisait son premier rassemblement de campagne. Et puis, nous allons revenir aussi sur la course à la direction du Parti québécois. Donc, on dirait que tout le monde cherche un chef, finalement, ces temps-ci. Je ne sais pas s'il a un chef, lui, mais en tout cas, il a du libre arbitre et c'est sans doute son propre patron à bien des égards. Frédéric Bérard est avec nous. Bonjour.
Ouais, tant que je me congédie pas, ça va aller.
Oui, c'est ça. Ne dépassez pas les bornes.
J'y pense.
OK, c'est bon. Vous êtes capable de vous mettre en vacances, par contre. Je suis certain, un peu plus souvent, c'est moins lourd de conséquences. Mais merci d'être avec nous, Frédéric Bérard. Alors, commençons par la course des conservateurs canadiens. Le Journal de Montréal faisait une première page en fin de semaine avec ce bout de phrase prononcé de façon laborieuse par M. McKay. Je vais le jouer, là. Il disait essentiellement « Jay sera candidate ». Bon, ce qui a soulevé toutes sortes de critiques et de doutes quant à la capacité réelle de M. McKay de s'adresser en français aux Québécois, finalement, et aux Franco-Canadiens. On cherche, on le sait, au Parti conservateur, un candidat qui fera le pont là, entre le Canada de l'Ouest et le Canada de l'Est et le Québec. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est le plan B? C'est la roue de secours, Peter McKay? Est-ce qu'on aurait... On attendait une course relevée avec plusieurs candidats, puis on finit par se retrouver seul avec M. McKay?
Bien, je pense que McKay va l'emporter. Ça me semble assez clair, en tout cas, pour l'instant, à moins que Stephen Harper sorte des boules à mythe, ce qui n'est pas impossible non plus, là, je pense, hein, parce qu'il a démissionné du...
Pensez-vous?
De son poste de bail. Non, je pense pas, mais je ne crois pas qu'il va y aller, mais je pense qu'il y a quand même une possibilité. Il a quand même démissionné de son poste de président du fonds de... Bon, je ne sais pas trop quoi, là, qui vise à amasser des fonds pour le parti. Donc, clairement, quand on fait ça, c'est qu'on souhaite se départir de l'obligation d'objectivité ou de neutralité, plutôt. Alors, est-ce qu'il va appuyer un candidat? Fort probablement. Est-ce qu'il pense peut-être lui-même y aller? Je sais qu'il y a des gens qui font des pressions actuellement auprès de Stephen Harper, comme ça avait été le cas lorsqu'Andrew Scheer était là, en disant si Harper était ici aujourd'hui, lors de la dernière élection, Trudeau en mangerait toute une, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. En tout cas, bref, mais pour venir à l'autre point que vous soulevez, effectivement, le français de McKay n'est pas très bon, on s'entend, en tout cas, beaucoup moins bon que celui de Scheer et beaucoup, beaucoup moins bon que celui de Harper. Mais je me souviens, moi, d'un Stephen Harper, lorsqu'il a débuté en politique fédérale, avait un français absolument épouvantable. Et a terminé la course, entre guillemets, avec un français plus que convenable, en tout cas meilleur que l'anglais de bien des Québécois. Et je vous dirais que j'ai toujours un petit malaise, pour pas dire un gros malaise, moi, quand je vois un média s'abuser des problèmes linguistiques d'autrui, se moquer de l'accent de un ou de la faute de Y. Franchement, là...
On n'est pas allé de main morte, effectivement, et puis ben, ça, c'est un autre sujet. Mais...
Je me souviens d'avoir entendu Pierre-Carl Péladeau parler en anglais lorsqu'il était chef du Parti québécois, puis je vais vous dire que c'était pas... on n'était pas chez Berlitz. Je me souviens aussi de Pauline Marois qui avait traité les Écossais de « strange people », en voulant dire « strong people ».
Ah ben là, ça, la qualité de l'anglais de Pauline Marois ne faisait aucun doute. C'était pas très élevé. Il y a par contre...
Louis Arel qui parlait pas anglais, qui voulait devenir mairesse de Montréal, qui était incapable de faire un débat.
Mais là, on veut être premier ministre du Canada à un moment où on essaie de recoller des morceaux un peu. Je veux vous amener en disant ça, vers même s'il n'est plus candidat, vers le cas Charest. Faut faut qu'on en parle un peu parce que M. Charest a annoncé donc la semaine dernière qu'il ne se présentait pas, ce qui a un peu trompé le journal La Presse qui, une demi-heure avant, annonçait qu'il se lançait. Voilà que, je pense que c'était vendredi soir, le compte YouTube de M. Charest lui-même met en ligne, par erreur, semble-t-il, une vidéo de campagne léchée, bien faite, dans laquelle M. Charest est d'attaque. Il s'annonce comme candidat de l'unité canadienne. C'est très intéressant. Il identifie ce problème-là de la fracture qu'on observe dans le Canada comme étant central et il veut être le capitaine Canada. Il veut jouer ce rôle de réconciliateur et il le fait évidemment, on sait bien que M. Charest parle bien français, mais il est très bilingue également. C'est un ancien chef du Parti conservateur. Et quoi qu'on pense de M. Charest et de son bilan assez problématique, pour employer un terme d'une certaine gauche en ce qui regarde l'éthique et le reste, il reste que on peut se demander.
De gauche, Nick Payne?
Non, mais vous savez, les choses problématiques, hein? C'est quand on ne veut pas trop dire vraiment être plus sévère que ça. Alors, nous dirons que M. Charest est problématique en regard de l'éthique. Mais, quoi qu'on pense, c'était une grosse pointure, non? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur meilleur candidat, là? J'ai envie de me penser ça.
Vous savez quoi, moi quand j'ai vu le Charest lancer les ballons à gauche, à droite, je me suis dit, c'est pas con, effectivement, c'est quand même un candidat de centre-droite. Sur les questions morales, il est beaucoup plus rassembleur que les Scheer et compagnie. Mais aussitôt que j'ai vu ça en entrevue, j'ai dit, je suis capable de voir ce gars-là, comme j'imagine, une tonne de Québécois. À l'extérieur du Québec, Charest, ça fait très longtemps quand même qu'il a quitté le bateau conservateur. On parle de 98, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait 22 ans. Est-ce que les gens se rappellent de lui? Pas tant que ça, à mon sens.
C'est peut-être une bonne chose dans son cas. En tout cas, vous vous en rappelez, puis c'est pas bon, mais pour d'autres, c'est peut-être une bonne affaire.
C'est vrai, j'ai l'air de me contredire, mais en même temps, c'est plutôt par rapport à sa cote de notoriété, c'est à ce mot-là que je trouvais le propos. L'autre affaire aussi, il a quitté le Parti conservateur de Mulroney qui avait pris l'eau là en 93. Le Parti conservateur de Mulroney et ce qui en est advenu par la suite, c'est pas la même chose du tout. Et moi, ce que je suis à peu près convaincu, c'est que, j'en suis convaincu, je peux pas voir autrement, c'est que Charest a fait des petits sondages à l'interne, entre autres choses, pour réaliser que l'électeur moyen des conservateurs et le militant, et surtout le militant moyen des conservateurs, donc celui qui va voter pour la prochaine course à la chefferie, a des positions de droite bien arrêtées qui ont rien à voir avec celle de Charest, qui est un bleu classique là, de Mulroney et compagnie, là, Stanfield ici, et qui n'a rien à voir avec la droite dure, là, si je peux dire, qui peuvent même considérer mettre en question l'avortement, la peine de mort et des trucs du genre, et où les mariages entre conjoints de même sexe. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui l'a coulé. Et pour le reste...
Oui, mais attendez, parce que justement, tout le monde semblait s'accorder là, pour dire que c'était un peu ça, et peut-être aussi le refus par la Cour suprême d'entendre la cause de M. Marc Bibeau, l'ami de Jean Charest, financier du Parti libéral, qui, à travers ce refus, nous a permis d'entendre donc de savoir le contenu des fameux mandats de perquisition que M. Bibeau voulait garder privés, secrets. Enfin, bref, sauf que M. Charest disait c'est essentiellement parce que le parti a changé, ses positions sont trop à droite, trop conservatrices sur certaines questions. Sauf que quand vous voyez cette vidéo qui a filtré, M. Charest n'a pas du tout l'air de penser que le parti ne fait pas son affaire. Là. Il a l'air...
Nick, entre ce que Charest dit et la réalité...
Non, je comprends. Mais en tout cas, il y allait. On comprend qu'il était en chemin, là. Tout était organisé. Puis il y a quelque chose qui l'a fait changer d'idée, semble-t-il, à la dernière minute.
Mais c'est sûr que la décision de la Cour suprême de lever le secret professionnel sur les documents qui étaient jusqu'alors protégés a nuit à Charest. Ça me semble bien évident. Son nom apparaît, on m'a dit, plus d'une quarantaine de fois au moins dans les affidavits. Et c'est une preuve de rien. Il n'y a pas d'accusation. Mais quand ton nom est beurré bord en bord dans ce genre d'affidavit-là, habituellement, ça sent pas bon.
C'est pas formidable, non.
Non, mais on s'entend. Moi, je fais la présomption d'innocence, je lui accorde. Mais politiquement, on s'entend que la présomption d'innocence, on repassera. Et pour le reste aussi, c'est que j'ai franchement l'impression qu'en fouillant un peu, il s'est dit, OK, mais j'ai pas d'affaire là. Donc, à la question initiale que vous avez posée, est-ce qu'ils n'ont pas manqué peut-être pas leur sauveur, c'est parce que vous avez dit, mais la grosse pointure, celui qui devait peut-être être un candidat naturel. J'ai l'impression qu'un gars comme Charest, qui est quand même de centre sur les questions sociales, sur les questions morales, sinon même à gauche dans certains cas, a juste rien à voir avec ce parti-là. Et le Parti conservateur de 2020 ne voulait rien savoir d'un gars comme Charest. Probablement que ça serait fait rincer de toute manière.
Sur ces questions-là. Sauf qu'en même temps, M. Mackay, lui, veut occuper le créneau plus progressiste. C'est même un mot qui a été employé là, ouais, en ce qui le concerne. Et parle de l'unité canadienne. On a comme l'impression qu'il reprend un peu le créneau de M. Charest, maintenant que Charest est hors du chemin. Vous pensez quand même que c'est un candidat plus conservateur, malgré tout?
Peut-être un peu. Puis l'autre affaire, c'est que Mackay a fait quand même le pont lors de la fusion des deux partis. Lui aussi appartenait à l'ancien parti de Mulroney, mais il était là lors de cette fusion, ce qui n'était pas le cas de Charest. Il a participé même à la fusion en question. Il est devenu ministre dès que Harper a obtenu le pouvoir. Donc, je dirais que c'est un candidat relativement naturel, en quelque sorte. Ceci dit, je parlais à un ami hier qui suit très près la politique fédérale, là, en tout cas, bref, il a les deux pieds dedans. Il dit le problème avec Peter Mackay, c'est tout ce qu'il touche vire toujours à la catastrophe. c'est quand même un peu vrai que le bilan de Mackay n'a jamais été très exceptionnel.
On se souvient de ses péripéties avec Belinda Stronach, je crois, qui était devenu libéral ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Puis là, il prenait des photos avec le chien, il exposait sa peine d'amour.
Ah oui, oui, oui. Mais c'était une sorte de Gaston Lagaffe conservateur.
Quand tu viens de te faire domper, en tout cas, bref, chacun fait ses trucs, là, mais il me semble que tu peux te garder une petite gêne, comme on dit, mais pour le reste, aux affaires étrangères, ça n'a pas été très fort. Quand il a été à la justice, c'est lui qui avait nommé le Marc Nadon à la Cour suprême, puis ça avait viré ça aussi au vaudeville, pour ne pas dire à la catastrophe. Moi, je ne le connais pas, Mackay, franchement, mais j'essaie de voir qui d'autre.
Bon, écoutez, Frédéric, au moins, il n'a pas oublié des documents secrets ou une boîte de Joe Louis en dessous du lit de Julie Couillard.
Mais ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas.
C'est ça, on ne sait pas exactement. Passons à une autre course, si vous voulez, qu'il y a celle de... Ben, il y en a deux. Il y a celle du Parti québécois, celle du Parti libéral. Alexandre Cusson, je parle du Parti libéral du Québec, évidemment. Alexandre Cusson, donc, tenait son premier rassemblement de campagne ou de pré-campagne, je ne sais pas comment on appelle ça, là, en fin de semaine, à l'aquarium, d'ailleurs, à côté d'un aquarium.
Ils ont bien choisi le nom, en tout cas.
Oui, mais en tout cas, là, on a vu un binôme, un peu, hein, Cusson et Marois Risky, qui étaient très, très présentes dans ce rassemblement, qui a tiré et décoché quelques flèches à l'endroit de Dominique Anglade sur la question de l'éthique, puisque M. Cusson fait de cette question-là le fer de lance, ou en tout cas, le socle de sa campagne jusqu'ici, de sa proposition. Il veut que le Parti libéral en finisse avec cette odeur de corruption qui lui colle à la peau. Il a employé des mots parfois comiques en disant « il faudrait un minimum d'éthique ». Alors, évidemment, tout le monde se dit « si le but, c'est le minimum, c'est dire à quel point on est loin du minimum chez les libéraux
». Ben après, ça, c'est pas peut-être qu'on a le minimum. La question, c'est quand est-ce qu'on ira chercher le maximum. Ça, c'est pas fait.
au moins quelque chose entre les deux.
Oui, peut-être.
Alors, les forces et les faiblesses de ce candidat-là, selon vous, on le connaît très peu. Est-ce que ça fait pas partie du travail qu'il a à faire, ça, se faire connaître?
Ben moi, je l'ai eu en entrevue au métro. Hein. Je fais des entrevues ici et là avec des politiciens. Il s'assoit avec moi en décembre, une fois que sa campagne a été lancée, informellement, tout le moins. C'est un gars qui, c'est l'ancien maire de Drummondville, il s'est occupé aussi de l'Association des municipalités québécoises.
Ben, il est président, il était président donc de l'Union des municipalités, c'est ça?
Exactement, l'UMQ. C'est un gars qui est intéressant, très bourraciste, très parti libéral, nationaliste, francophone, beaucoup, beaucoup de références à Jean Lesage.
Ah bon? Alors, il y a l'élément nationaliste. Vous le connaissez mieux que la moyenne des ours, je pense.
Bien, au PLQ, peut-être plus. Oui, et très décentralisation aussi. Hein. Je pense que comme président de l'UMQ, il est très sensible à ce genre de discours-là. Drummondville, c'est pas une région très éloignée, mais quand même. Puis entendu, évidemment, j'imagine, des griefs et récriminations de ses collègues maires. Donc ça pour dire que c'est un candidat qui est intéressant, mais qui n'est pas non plus, et je le dis pas méchamment, là, qui n'est pas éblouissant de charisme ou d'idées, mais c'est un gars sympathique qui, je pense, peut amener un certain vent de fraîcheur au PLQ, puis je pense qu'ils en ont besoin. Dominique Anglade aussi, je l'ai rencontré dans le cadre de cette entrevue-là, bien sympathique, je l'aime bien, mais évidemment, elle fait partie peut-être malgré elle, de l'ancienne garde, en quelque sorte. Elle était caquiste aussi avant, ça, il y a plusieurs libéraux qui lui en tiennent rigueur, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Cusson, qui arrive, la partie un peu facile à cette étape-ci, hein, parce que tu arrives, tu dis, ça prend de l'éthique, là, c'est facile de dire ça quand tu débarques en 2020 chez les libéraux. Quand tu as été ministre sous Charest,
mais en même temps, ça peut heurter aussi. Je dirais que Marois Risky n'est pas allé de main morte en fin de semaine en identifiant ça comme étant un vrai problème et en renvoyant Dominique Anglade à ses devoirs en disant qu'elle est dans le déni. C'est pas vrai que les militants et les Québécois ne nous parlent pas de cette question-là, au contraire. Et elle dit aussi ça va être un gros défi. Alors là, on est encore dans le minimum d'éthique ici qui serait même pas atteint au Parti libéral à l'heure actuelle, d'après elle.
Ouais, ben en fait, c'est un peu vrai, hein. Puis toutes les questions qui ont été soulevées en rapport à la candidature de Charest ont rebrassé tous ces souvenirs-là qui sont pas si lointains. Et je pense qu'effectivement, là, sont coincés par ces espèces de, comment je dirais, de stigmates qui leur collent à la peau. Je pense que c'est seulement le temps, hein, qui va faire le travail à ce niveau-là. Il n'y aura pas de solution miracle.
Et là, ce qui arrive à M. Charest, enfin, M. Bibeault, peut nous laisser penser qu'il y aura des suites. Peut-être que l'UPAC pourra enfin progresser un peu dans l'enquête mâchurée. C'est à suivre. Terminons vite sur la course à la chefferie du Parti québécois, puisque Frédéric Bastien, dont on a déjà parlé ensemble, vous et moi, officialise sa candidature. C'est cet historien, prof d'histoire, auteur du livre La bataille de Londres, qui, depuis quelque temps, se fait remarquer en picossant, comme on dit, les juges. D'abord, la juge Duval-Essler qui entendait l'appel là, sur la suspension ou non de la loi 21, puis ensuite, les juges qui vont la semaine prochaine ou prochainement, je ne me souviens plus, entendre cette cause à nouveau et qui devaient aller donner des conférences chez Lord Reading. Bref, M. Bastien se fait remarquer et là, il se propose comme étant le candidat du nationalisme et des négociations constitutionnelles. Hein?
Oui, ben en fait, je suis pas de la même école que Bastien. Je suis d'accord avec lui sur assez peu de choses. Mais pour connaître maintenant un petit peu mieux l'individu, on a déjà fait des conférences ensemble, puis on fait des entrevues et tout. C'est un gars plutôt sympathique. Et surtout, ce que j'aime bien, même si je n'aime pas ses idées pour la plupart, c'est un intellectuel qui se veut quand même avec une qui respecte son idéologie depuis longtemps, qui travaille, qui réfléchit. Et ça, je vous dirais que j'ai du respect pour ce genre d'individu, même si je suis tout à fait en désaccord. Et là, je le place évidemment en opposition avec un Paul Saint-Pierre Plamondon qui lui, doutine d'un truc à l'autre, change d'idée aux 5 minutes, vire de bord,
Vous parlez de sa volte-face sur la question du référendum. Alors,
c'est de la poudrière, ça, Nick Payne. Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit, lorsqu'il avait créé son groupe de orphelin politique, 2 mois avant de se lancer à la course à la chefferie du PQ, déjà là, on voit tout de suite l'opération et on voit à quel point c'est pas sérieux, avait engueulé un journaliste du Devoir qui avait osé dire que Orphelin politique était un regroupement nationaliste. Et il avait appelé le journaliste en l'engueulant en disant « Voyons donc, tu peux pas écrire que je suis nationaliste, je suis pas nationaliste du tout. » Or, à peu près 2 mois plus tard, il est candidat pour remplacer Péladeau au PQ. Ce gars-là, il dit absolument n'importe quoi. Il veut faire un show. Là, je vous promets qu'il va changer son fusil d'épaule sur la question de l'identité. Regardez bien ça, là, il va commencer. Ah oui, mais finalement,
Ah ben, il a progressé, on peut dire ça comme ça, sur ces questions-là. Il accordait récemment un entretien à Mathieu Bock-Côté dans lequel il dit qu'il a fait une prise de conscience, hein, sur cette question-là.
Ah, c'est donc beau. Ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous dire, là, ça 32 secondes.
Bon, alors, vous avez réglé le cas Saint-Pierre-Plamondon. Terminons sur Stéphane Hanfield, qui n'est pas encore confirmé, qui est dans votre domaine. C'est un juriste assez respecté, notamment, qui s'exprime beaucoup, qui est spécialisé en droit de l'immigration. Pensez-vous qu'il se lance et que pensez-vous de cette candidature? On n'en a pas parlé ensemble, vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Hanfield, divulgation de conflit d'intérêts, c'est un ami. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui fait notamment d'un point de vue droit d'immigration. C'est quelqu'un qui a le cœur à bonne place, c'est quelqu'un qui a les libertés civiles à bonne place, si je peux dire. Je pense que ce sera un candidat de valeur pour le PQ, comme c'est le cas de Bastien et comme c'est le cas aussi de Sylvain Gaudreau, qui lui est le vieux routier, même s'il est encore jeune, là, le vétéran de la politique et tout. Donc je pense que ces 3 candidats-là ont des trucs à apporter qui sont intéressants. même s'ils sont complémentaires, là, si je peux dire. Moi, celui, le grain de sable dans cet engrenage-là, c'est le grain de sable de l'opportunisme, puis c'est Saint-Pierre Plamondon, mais les trois autres, en cas moi, ça
bon, va. Alors, on retient cette conclusion spectaculaire. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. On va demander à Catherine Fournier, qui est avec nous en ce moment, si elle se présente, elle aussi, bientôt, à la chefferie d'un parti. Peut-être son propre parti, on ne sait jamais. Ah, on lui fait le message. Elle a des écouteurs, elle vous a entendu.
Non, regardez ce qu'elle a fait encore avec les policiers de Longueuil. Chapeau à Catherine Fournier, bravo, comme d'habitude.
Elle vous dit merci beaucoup.
C'est rien beaucoup, je m'en vais, là, je vous laisse tranquille.
Oui, parfait. Salut Frédéric Bérard, à une prochaine. Alors, dans un instant, on va jaser avec Steve Fortin, mais aussi avec de plus en plus avec Catherine Fournier, la grande visite qui est avec nous en studio aujourd'hui. À tout de suite. De retour à Société. Alors, avant de jaser avec Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal, commençons un peu à discuter avec la députée de Marie-Victorin qui est avec nous en studio, Catherine Fournier. Vous connaissez un peu... bonjour, Catherine Fournier.
Bonjour, Nick.
D'abord, vous connaissez un peu ou pas son histoire. Je vous la raconte. Elle a été élue pour le Parti québécois. Elle a quitté le parti. Après, elle est maintenant une députée indépendantiste indépendante. C'est comme ça qu'il faut la présenter. Elle est avec nous ce matin pour parler plus spécifiquement de cette histoire, cette controverse autour d'une série de reportages dans le journal La Presse sur le programme mis en marche par la police de l'agglomération de Longueuil, un programme qui s'appelle Immersion, à travers lequel une trentaine de policiers, si ma mémoire est bonne, ont été retirés là, de la patrouille pour, pendant plusieurs semaines, être mis en contact avec différents groupes, différentes minorités. Alors, par exemple, des itinérants, les gens avec des problèmes de santé mentale, mais aussi la communauté musulmane. Et c'est là qu'il y a eu controverse. Un imam dans une mosquée, un imam assez controversé. On va aller plus en détail là-dessus dans quelques instants parce que Catherine Fournier appuie ce programme, elle le salue et ça lui a valu certaines critiques, évidemment, de la part de ceux qui trouvent que c'était un peu fort de café d'essayer de forcer les policiers à s'ouvrir à certains préceptes mis de l'avant, par exemple, par des personnes comme l'imam en question. On va y revenir dans un instant. Gardez votre souffle, Catherine Fournier. D'abord, je vais vous demander comment ça va comme indépendante, là? Qu'est-ce que vous... Attends, je vais commencer ça autrement. Je peux comprendre que dans un parti comme le Parti québécois ou n'importe quel autre parti, lorsqu'on est membre du caucus, on est un élu, puis on quitte le parti, des gens ne sont pas contents, des gens ne comprennent pas ou ne comprendront jamais ou ne veulent pas comprendre ce que vous faites. Mais dans votre cas, il y a aussi des gens à l'extérieur, des observateurs qui, de façon plus globale, ne sont pas certains d'avoir compris là où vous vouliez en venir. Et est-ce que êtes-vous aujourd'hui là où vous vouliez être avec ça? Qu'est-ce que vous vouliez dire et faire exactement lorsque vous avez quitté le PQ?
En fait, quand j'ai quitté le Parti québécois en mars dernier, c'était davantage des constats que j'avais fait, une conclusion à laquelle j'étais arrivée du fait que le projet pour lequel moi je suis en politique, celui de l'indépendance du Québec, ne pouvait plus, à mon sens, avancer au sein du Parti québécois, ne pouvait plus avancer dans le contexte d'ultra-partisanerie actuelle entre les différents porteurs de l'option sur la scène politique québécoise.
Ah ben là,
donc,
ça
c'est essentiellement pour ça, en fait, que je suis partie, parce que du moment où je ne vois pas d'espoir dans un parti politique, du moment où on entrait dans une démarche de refondation que je considérais totalement superficielle,
un peu factice,
je ne voyais pas comment j'aurais pu rester à l'intérieur de ce parti-là, faire la tournée des militants comme j'ai toujours fait, avec beaucoup d'enthousiasme, sans jamais... en acceptant toutes les invitations qu'on me faisait. J'avais l'impression de ne pas être honnête avec moi-même, avec mon engagement. Donc, c'est simplement pour ça que j'ai décidé de me retirer. Peut-être que ça a surpris certains observateurs. En effet, je comprends qu'il y en a eu, qu'il y a eu des questionnements, parce qu'habituellement, on est plutôt habitué d'avoir des gens qui quittent, par exemple, un parti, qui ont un projet, qui veulent fonder quelque chose d'autre, tout ça, moins sur des constats, disons, plutôt pratico-pratiques. Moi, c'était mon cas. J'avais le goût de me donner tout l'espace de réflexion nécessaire pour le faire. Dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai tenu des rencontres de consultation. J'ai continué aussi de m'informer beaucoup sur ce qui avait été fait avant aussi dans le mouvement. Nécessairement, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là, mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on fait certains constats. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de me faire une tête là-dessus.
J'ai réagi vite au début là, de votre réponse, parce que vous avez dit beaucoup de choses en très peu de mots dès le départ. Vous avez dit, d'une part, le Parti québécois n'est peut-être plus le bon véhicule pour ce projet-là qui vous a amené en politique, si je vous ai bien compris. Ouais. Mais vous avez aussi dit le contexte de division entre les différents partis souverainistes. Ah, ça, c'est pas la même chose exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le PQ, c'est le bon véhicule et qu'il faut essayer de rassembler. Mais vous, vous identifiez deux problèmes. Vous dites le PQ lui-même pose problème et aussi la division. Comment faites-vous pour faire la jonction? Parce que c'est pas nécessairement le même problème, ça. C'est deux choses distinctes. Vous êtes en train de dire que des souverainistes vont à Québec solidaire, par exemple, ou même à la CAQ, hein? Il y en a beaucoup maintenant.
C'est distinct, mais en même temps, à l'époque, le Parti québécois avait réussi à être une coalition de gens autant à gauche, à droite, puis il y a eu un étiolement de cette coalition dans les dernières années. Oui, en raison de certaines graves erreurs, je pense, du Parti québécois, qui, après analyse, ont été probablement plus dur que ce qu'on a pu croire. En fait, avec le temps, à force de pas régler les problèmes, je crois que ces problèmes-là se sont aggravés puis que ça entraîne une espèce de chemin de non-retour.
Alors, parlez-vous de problèmes comme le fit Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques mois ou années, de problèmes organisationnels, de culture, de façon de faire de la politique? Vous avez parlé de partisanerie tantôt, ou est-ce que vous parlez de problèmes d'orientation politique?
Je dirais qu'il y a les deux. D'abord, structurellement, je suis assez d'accord avec certains constats que Paul avait fait à l'époque avec son rapport Oser repenser le PQ, que la structure organisationnelle était très rigide et très réfractaire à l'innovation, au changement. D'une part, mais je pense que les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. C'est pour ça que je crois que même s'il y a une réforme, par exemple, des statuts du Parti québécois, même si on a un nouveau chef, à mon sens, c'est pas suffisant pour vraiment pallier au problème. En fait, je crois que c'est une perte de crédibilité et de confiance qu'il y a eu avec la population depuis 1995. Je pense que vous l'évoquez souvent vous-même là, dans vos textes, les tergiversations sur la question nationale.
Les louvoiements, c'est un mot qu'on emploie souvent.
J'ai publié même un livre cet automne, en fait, puis ma thèse principale, c'était de dire, ben, si le Parti québécois n'a pas montré aux Québécois qu'il était capable, qu'il était en mesure de réaliser l'indépendance, qu'il avait un plan crédible et sérieux pour y arriver. Alors, pourquoi les gens voteraient en fonction de la question nationale? Je crois que les défaites de 80-95 ont fait très mal, que les gens qui croient toujours à l'indépendance gardent ce projet-là. Puis c'était quand même assez fascinant de voir qu'il y a encore 30-35% des gens qu'ils disent qu'ils sont favorables, qu'ils voteraient oui demain matin. Mais ces gens-là n'ont pas le goût de voter pour un parti avec lequel ils sentent qu'ils vont aller perdre.
Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé toutes ces questions-là et vos réponses sont très intéressantes. C'est que on vous considère comme une bonne députée et vous êtes la relève aussi. Hein, ça a beaucoup été votre marque, celle de la jeunesse. Ça le sera de moins en moins, pardon de vous le dire. Mais c'est comme ça. On est
tout
tous pris là-dedans.
Mais,
donc, on ne veut pas vous perdre d'une certaine façon et on sait que pour les députés indépendants ou encore plus pour ceux qui ont quitté une bannière politique, c'est très difficile de se faire réélire. Avez-vous fait une croix sur la suite des choses pour vous en politique parlementaire à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on peut imaginer vous revoir dans un parti pour la prochaine élection? Si le Parti québécois fait son aggiornamiento, là, se remet à jour, réussit à se réformer dans le sens de vos aspirations, pourriez-vous retourner là ou encore pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas à Québec solidaire, par exemple, si vous êtes souverainiste et peut-être progressiste?
Ah ben, ce serait le sujet d'une toute autre
émission complète,
je pense, et mes critiques envers Québec solidaire. Il y a des choses qui me rejoignent moins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne me joindrai pas
Restons sur le Parti québécois.
Parti, mais voilà, donc pour 2022, je vous dirais que c'est encore loin. Je pense que chaque député, au moment des élections, doit avoir la réflexion, est-ce qu'il se représente pour un engagement de 4 ans quand même? C'est pas rien. Moi, en 2022, je vais avoir 30 ans. Ça va déjà faire 6 ans que je suis députée. J'adore ce que je fais. Je suis privilégiée de le faire également. En même temps, je peux me poser la question, est-ce que c'est sain aussi d'être députée je veux dire, autant d'années consécutives, je sais pas. Ça va être une réflexion que je vais me faire. En même temps, si je sens que c'est important pour moi de me représenter, ça va jouer dans mes considérations aussi, mais j'en suis pas du tout là. Puis ma décision d'agir comme indépendante, c'était très indépendamment de ça. Vous savez, moi, j'étais en bonne posture au Parti québécois. J'avais eu toujours des très bons dossiers, une belle visibilité. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester, de faire mes petites affaires, de me positionner dans la course à chefferie. Mais j'ai voulu envoyer un signal fort, avoir une réflexion avec des gens justement qui sont des souverainistes mais orphelins politiques. Puis en ce moment, ça va bien à l'Assemblée nationale. Je veux dire, j'ai réussi à faire ma place quand même comme indépendante, à pousser certaines idées. Puis je m'y sens tout à fait confortable.
Ah, vous avez très bien pas répondu à la question. Pourrait-on vous revoir au Parti québécois? Mais ça veut dire
que... Je pensais que c'était sur 2022 la question.
Oui.
Au Parti québécois, non.
Si ça devait changer, là, non.
Il faudrait que mon analyse change complètement, mais je vois pas comment, avec les considérations que j'ai devant moi présentement, que ça pourrait changer.
Bien, alors, c'est tout à fait cohérent avec ce que vous dites. Il y a Steve Fortin, avec qui on va jaser à l'instant, de ce sujet sur lequel nous revenons ensemble tout de suite après, et d'autres choses, là, mais donc le sujet des... D'abord, bonjour Steve Fortin.
Oui, salut, comment ça va?
Oui.
Très intéressant tout ça.
Ben oui, c'est sûr. Quand on a des invités intéressants, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, vous en faites partie, vous
ben,
aussi. Parlons-en un instant, parce qu'on va en discuter avec Catherine Fournier. C'est pour ça qu'elle est ici, ça paraît peut-être pas là, mais c'est pour parler du programme d'immersion, qui s'appelle plutôt le programme Immersion, donc de la police de l'agglomération de Longueuil, qui a fait débat, non pas pour pas mal l'ensemble de l'œuvre, mais plutôt pour cet élément-là. L'imam, dont j'oublie le nom, là, qui a été rencontré par les policiers, qui tient des propos plutôt durs, plutôt controversés. Est-ce qu'il y a tempête dans un verre d'eau? Est-ce qu'il y avait un débat à faire là-dessus? Où est-ce que vous vous situez, vous?
Ben, écoute, je fais partie de ceux qui étaient en accord. Moi, tu sais, j'ai aucun problème avec le programme, puis tu sais, je veux dire, personne est contre la tarte aux pommes, là. J'ai aucun problème avec ça. Toutefois, moi, c'est la petite partie, puis tu sais, c'est plate, en fait, et j'ai un peu participé à ça moi-même, parce que j'ai publié un texte là-dessus, mais à un moment donné non plus, on peut pas s'empêcher de publier quand on a quelque chose à dire, mais tu sais, c'est la petite partie où on va justement dans cet endroit-là, dans la mosquée. Puis j'étais d'accord au départ, tu sais, moi, quand j'ai entendu la critique de José Boileau au 15-18, je me trouvais à écouter cette... je l'ai entendu en direct, puis j'ai dit, ben, OK, faut que je réécoute ça absolument. Il y avait beaucoup de trucs là-dedans qui me parlaient. Puis, tu sais, là, j'ai lu aussi le texte « Les limites de la tolérance » de Sébastien Lévesque dans le quotidien de Groupe Capital, ex-Groupe Capital Média. Je me suis dit, ben voilà, tu sais, on peut...
Alors, M. Lévesque, là, comme José Boileau dit essentiellement, ben, il y a une limite qu'on a peut-être franchie en demandant à des policiers de se montrer ouverts, par exemple, au port du Voile, par des jeunes filles de 5 ans.
Regardons la trame diégétique, là, comment on a monté ça dans le texte initial. Je veux dire, il faut quand même le reconnaître, là, il y a un policier qui se montre totalement réfractaire à qu'est-ce qui se passe là. Puis quand on regarde comment c'est décliné, ben je veux dire, on peut pas faire autrement que de voir que c'est présenté comme s'il était intolérant. Puis tu sais, d'une certaine façon, moi je baigne dans un milieu où il y a beaucoup beaucoup de policiers par ici. Je les côtoie beaucoup, puis dans une ancienne vie même, j'ai travaillé de concert avec eux, et je peux te dire une chose, j'ai beaucoup entendu de critiques aussi de gens qui disaient, bon, on n'a pas d'affaires là. C'est tout, on n'a pas. Tu sais, je veux bien là, qu'on essaie de dire qu'il va y avoir un rapprochement puis tout ça, mais ce qu'on entend là, puis ce serait la même chose dans mon coin là. Je veux dire, moi j'habite en région, c'est pas cette question là qui se pose. Toutefois, la commission scolaire ici a déjà eu des démêlés avec des communautés orthodoxes catholiques, tu sais. Puis je verrais mal comment et pourquoi on enverrait des policiers, par exemple la Sûreté du Québec, aller faire des stages à cet endroit-là. C'est pas ça qu'on veut, qu'ils connaissent un peu qu'on leur enseigne à un moment donné des méthodes d'intervention et tout ça, c'est bien correct, mais tu sais, le reste du programme, pour moi, c'est OK. Mais quand on parle d'une société laïque à l'intérieur de laquelle, je veux dire, la pratique de la religion, on ne veut pas l'entremêler avec, par exemple, la fonction policière, ben, ça me rentre pas dans la tête. J'ai de la difficulté avec ça, puis je continue à avoir des doutes par rapport à cette petite partie partie-là de l'intervention, tout simplement.
Alors, on va y revenir avec Catherine Fournier dans un instant. Parlons d'une autre, d'un autre sujet avec lequel, sur lequel on n'a pas eu le temps de jaser, vous et moi, la semaine dernière. On y revient un instant, d'autant plus qu'il était encore dans l'actualité cette semaine, dans un autre portrait, dans un média anglophone. Cette fois-ci, je parle du blogueur Xavier Camus. Ce blogueur qui s'exprime beaucoup également sur Facebook et qui essentiellement traque, dit-il, l'intolérance. Disons que sa pratique consiste à aller chercher ce qu'on appelle des captures d'écran, donc prendre des extraits de conversations dans des groupes Facebook plus ou moins privés où des gens disent parfois des énormités ou des choses racistes ou intolérantes ou que sais-je encore, et met ça en exergue, republie ça en disant « Voyez, monsieur un tel, madame une telle est raciste, il est en lien avec telle organisation, il faut se battre contre ça. » Et bon, ce que lui reprochent plusieurs, c'est de faire l'amalgame entre ça et sa quête politique à lui, sa démarche politique qui est essentiellement inclusive, pro-Québec solidaire, il faut le dire aussi, là, et donc antifasciste, et bien sûr, à travers ça, il traite de raciste et de fasciste des gens qui, à qui ça ne fait pas plaisir puis qui ne le sont pas nécessairement, là, comme je ne sais pas moi, Mathieu Bock-Côté, vous-même et tant d'autres, vous avez été au cœur de ça, vous avez, je pense, été écorché par Xavier Camus d'une façon ou d'une autre vous-même.
Et c'est drôle parce que, oui, tantôt, on avait un peu discuté à me joindre, ben c'est que j'étais à terminer un texte qui vient d'être lancé sur mon blog du Journal de Montréal.
Ah ben, c'était pas parce que la police est arrivée chez vous pour vous arrêter,
non,
pour
tout,
délit d'opinion.
Écoute, ça, je vais revenir là-dessus, par contre, mais je veux quand même le dire, là, le texte que je viens de publier, le titre, il est sans équivoque, le texte de Caroline Touzin qu'elle avait écrit.
Alors, c'est la même journaliste, hein, il faut le dire, qui faisait le reportage sur le programme Immersion.
Contexte, là, Caroline Touzin, quand elle écrit son texte sur pour question de contexte, quand elle écrit son article concernant Xavier Camus, bon, ben c'est sûr. Moi, j'ai vu mon collègue Richard Martineau qui s'est fait tomber dessus, puis tu sais, il a traité les textes, pas juste celui de Caroline Touzin. D'ailleurs, hier, on disait à tout le monde en parle que c'était sexiste, mais il a dit la même chose du texte d'Hugo Meunier dans Urbania. Parce qu'on va commencer par ces deux textes-là. Ben, tu sais, il avait traité ça de sloppy blowjob, tout ça, puis tu sais, long blowjob. En tout cas, moi, j'ai pas aimé ça du tout. Puis le titre de mon texte d'aujourd'hui, c'est justement le texte de Caroline Touzin n'est pas un sloppy blowjob. J'explique là-dedans. Parce que effectivement, elle m'a consulté, puis on a beaucoup discuté, elle et moi, par rapport à ce qu'elle devait écrire sur Xavier Camus. Quand elle a fait ses recherches, elle a vu que lui et moi, on s'était déjà coltaillé dans le passé. En fait, j'ai dénoncé ses méthodes et ce que j'avais dit à Caroline Touzin, sachant qu'est-ce que ça coûte de se frotter à la meute numérique de Xavier Camus. Puis là, j'utilise l'expression meute numérique en fonction d'une référence très précise.
Oui, c'est poétique, c'est une belle création, je ne l'avais jamais entendu. Donc, la meute numérique.
Ça vient de Charlie Hebdo, ça vient d'une chroniqueuse de Charlie Hebdo, et je le cite dans mon texte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai longuement expliqué à Caroline Touzin pourquoi je ne tenais pas, encore une fois, à me retrouver au cœur d'attaques incessantes et souvent même méprisantes. Là. Quand on dit cyber-intimidation, là, je veux dire, ceux qui ont eu à en découdre avec cette meute-là le disent, et je ne suis pas surpris que pour son article, Caroline Touzin ait probablement eu beaucoup de difficultés pour trouver des gens qui étaient prêts à aller au portillon pour se frotter à
critiquer M. Camus. Mais dites-moi, est-ce que vous trouvez-vous quand même, je me fais l'avocat de Camus un instant, qu'il n'y a pas un phénomène à dénoncer ou à surveiller? Est-ce que tout n'est que mauvais dans ce que fait Xavier Camus? C'est vrai que des fois, il rencontre de trucs assez stupéfiants, là, dont on ne se doutait pas. Est-ce que ce sont des gens, comme il y en a toujours eu, qui tiennent des propos outranciers?
On va prendre un exemple concret qui s'est passé cette semaine. Xavier Camus publie sur son compte Twitter la photo d'une maison à Trois-Rivières en disant au départ, puis j'en ai fait une capture d'écran, c'est dans mon texte d'aujourd'hui, qui dit au départ, ben voici, c'est à Trois-Rivières, tel quartier, telle rue, ces gens-là exposent leur racisme. Puis là, il y a un drapeau confédéré sudiste, puis c'est dans la fenêtre. Personnellement, là, je trouve ça absolument infect. Et j'ai voulu dénoncer ça. J'avais dit à Caroline Touzin, je ne veux plus mesurer à ces gens-là. Mais là, ça, c'est trop fort.
Donc, parce que c'est de la délation ou ça peut attirer des mauvais coups à ces gens-là?
C'est ce que le professeur Charbonneau, dans un texte qui a été publié, très critique envers la méthode Camus de l'Université d'Ottawa, dans la presse, c'est ce qu'il disait, la société de délation permanente, là, c'est dangereux. J'ai vu Martin Geoffroy aussi, le chercheur universitaire sur l'extrême droite, qui est critique aussi de certaines des méthodes de Xavier Camus. Puis il faut faire très attention à ça. Moi, je viens d'un milieu pauvre, puis j'ai rencontré dans une Audi, alors que je travaillais dans le monde de l'intervention auprès des personnes défavorisées et des personnes marginalisées, surtout des hommes, j'ai rencontré, moi, des gens qui ont exposé ce drapeau-là, par exemple, dans leur salon, puis je leur ai demandé s'ils en connaissaient la signification. Tu sais, il faut faire attention, puis on sait pas ce qui se passe dans cette maison-là. On prend pour... Xavier Camus, il publie ça, lui, puis il prend pour acquis que les gens qui sont là, peut-être qu'il les connaît même, là, on sait pas d'où ça vient, tout ça, mais depuis...
Alors, ce sont des racistes et... Bon, là, le temps nous manque, Steve Fortin, vous avez pu donner, je pense, un point de vue...
insuffisant, et la rançon d'une intervention comme celle-là va être la même au final, parce que ces gens-là, je vous le dis, c'est pas des gens avec qui on veut se coltailler, puis à un moment donné, c'est ça qui est dommage avec l'intervention de Caroline Touzin, puis c'est pour ça que j'écris là-dessus aujourd'hui, pour faire savoir quand même que pour établir un portrait nuancé du personnage, il faut encore trouver des gens qui sont prêts à se frotter à cette meute numérique-là qui est la sienne et qui, je vais vous le dire, là, est franchement dérangeante.
Mais vous avez porté l'autre point de vue, Steve Fortin, ne vous inquiétez pas, Excellent. Vous avez eu assez de temps pour le faire, même si c'était court, et ça nous fait changement de espèce d'entrevue complaisante qu'on a eue à Tout le monde en parle hier sur la même question. C'est parfois la critique qu'on peut faire des entrevues, Tout le monde en parle, j'assume celle-ci.
Il faut lire aussi Luc Lefebvre, hein, par rapport aujourd'hui, il a lancé quelque chose qui est assez intéressante sur son compte Facebook. Je vais revenir là-dessus aussi.
On regardera ça. Merci beaucoup, Steve Fortin. On parlera des nombreuses courses à la chefferie une prochaine fois. Il y en a encore pour des mois de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle enfin de ce sujet immersion avec Catherine Fournier. De retour avec Catherine Fournier. Maintenant, parlons-en du programme Immersion. Steve Fortin parlait de gens qui tombent sur d'autres gens. Vous, c'est Richard Martineau qui est tombé sur vous parce que vous avez, pas seulement lui évidemment, là, mais disons qu'il a mené la charge.
J'ai partagé 3 fois ma photo sur les réseaux sociaux.
Oui, en effet.
Quand on parle de cyber-intimidation, en tout cas, je regarderai aussi de ce côté-là.
Alors, éclairons les gens un peu. Je le disais tout à l'heure, cette partie-là de l'expérience du programme Immersion a fait débat. Là où on voit, la presse nous décrit cette rencontre entre les policiers et un imam, et plus largement la visite des policiers dans une mosquée. C'est vrai qu'on peut penser à certaines occasions que les policiers un peu réfractaires, mal à l'aise, sont présentés comme des gens fermés d'esprit qu'il faudra ouvrir. Et là, donc, on se met à critiquer ça. Et là, François Cardinal, éditorialiste de la presse, répond en disant « Non, 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 il faut des programmes comme celui-là. » Et il répond spécifiquement sur la question là, de la visite à la mosquée en disant « Effectivement, non, non, il faut s'ouvrir. » Enfin, on avait l'impression qu'il défendait cette portion-là de la démarche. Et vous avez relayé son texte sur Twitter en disant « Merci François Cardinal de remettre les points sur les i, je pense, ou les pendules à l'heure. Ce programme est utile et nécessaire. » Je pense qu'il y a c'est de là qu'est parti le malentendu. Vous, en fait, vous étiez heureuse de ce que quelqu'un défende ce programme-là au complet, là, pas spécifiquement la question de la visite à la mosquée. Est-ce que vous comprenez, au-delà des chicanes puis de Richard Martineau et tout le reste, que vous comprenez les objections de ceux qui étaient mal à l'aise avec la portion visite à la mosquée de l'expérience?
Tout à fait. Je comprends les incompréhensions, je comprends le malaise. De mon côté, toutefois, je suis pas là pour juger des reportages de la presse. Moi, je suis là pour faire mon travail de députée à Longueuil. Je connais le programme Immersion. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la direction du service de police de Longueuil il y a quelques temps à propos du programme. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif dans le contexte où il y a beaucoup de problématiques sociales à Longueuil qui méritent d'être mieux connues. Les policiers, ils répondent à 70 % d'appels, non pas de nature criminelle, mais de nature sociale.
C'est de l'intervention psychosociale, pratiquement. On n'est pas dans la répression, là.
Évidemment, mais ce ne sont pas des travailleurs sociaux, mais en même temps, eux, ils se font appeler sur les appels du 911. Ils doivent se déplacer. Tout à l'heure, j'entendais Steve Fortin nous dire on devrait pas lier le religieux avec les forces policières, mais s'ils ont un appel à la mosquée, les policiers, ils doivent se déplacer. Je veux dire, c'est pas eux qui choisissent où ils vont se rendre. Ils vont pas dire le Québec est laïque, donc c'est pas vrai qu'on va répondre aux citoyens qui fréquentent des centres religieux. Donc moi, je veux bien sûr que je trouve ça complètement inacceptable ce que dit l'imam en 2011 qui a été rapporté par par Sophie Durocher.
Oui, alors,
bien sûr que je trouve inacceptable.
Sur la lapidation.
Incompatible avec mes propres valeurs, certaines pratiques qui sont courantes à la mosquée de Brossard, qui fréquente par ailleurs près de 3000 citoyens de Longueuil. Ça demeure une réalité qui est importante. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On choisit de ne pas y aller, de les ignorer, alors qu'on sait très bien qu'on va peut-être avoir certains démêlés avec eux. Ou est-ce qu'on fait comme la police de Longueuil a décidé de faire, de dire ben, on va y aller en civil? Pas pour dire qu'on accepte qu'est-ce qui se passe là-bas, juste pour comme savoir que ça existe. C'est ça qui est important, je pense, de faire la nuance. Savoir, connaître des réalités, c'est pas consentir, c'est pas s'ouvrir, c'est pas accepter.
Ou appuyer, par exemple.
Ou peu importe. Puis on l'a bien vu ça, autant dans les articles, à Tout le monde en parle hier soir. Les policiers, là, ils sortent pas de là endoctrinés, bien au contraire.
Non, c'était pas le cas. Il y en a un qui tenait même des propos qui auraient pu lui valoir. Oui, c'est ça. Il disait, moi, quand je sors de la mosquée, j'ai eu besoin de décompresser.
Puis monsieur d'ailleurs, le chef du service de police, comprend tout à fait. Puis je veux dire, c'est loin d'être l'objectif.
Alors, monsieur Fadi Daguerre, donc le chef de police de l'agglomération Longueuil, c'est par lui qui est arrivé ce programme. Il a longuement réfléchi à ce problème. Il craint,
avec des spécialistes aussi. Puis c'est basé sur des recherches scientifiques.
C'est entouré, vous savez, des psychologues.
Tous les organismes, tous les centres d'expertise à Longueuil sont favorables à ce projet.
Il s'est entouré de toutes sortes d'experts, comme vous dites, pour mettre au point ce programme. À partir d'une idée, il craint qu'un jour, quelqu'un de son service, par exemple, tire sur quelqu'un ou en tout cas qu'une intervention se passe mal entre sa police et une minorité, quelle qu'elle soit. Il voulait prévenir ça en mettant les policiers en contact avec diverses réalités. C'est ce que je comprends de sa démarche.
Il y a un peu de ça, mais il y a aussi la prévention plus générale, de comprendre justement, si on se réfère encore une fois au phénomène religieux, bien que le programme soit beaucoup plus large, puis personnellement, c'est un peu ce que j'ai déploré, là, qu'on fasse comme si c'était unidimensionnel, alors que ce n'est pas du tout. Mais admettons qu'on prend encore une fois le phénomène religieux.
Non, alors ils sont allés rencontrer toutes sortes de gens dans toutes sortes d'autres endroits
fait,
que la mosquée. Là.
C'est quoi les mécanismes? Le cycle de la violence, en fait, de façon générale. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une situation va mal tourner? Bien, les policiers, en ce moment, sont habitués, ils vont rencontrer des situations où est-ce que la violence est souvent déjà arrivée. Là, ce qu'on dit, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qui mène à ça? Parce que l'objectif de la police de Longueuil à plus long terme, c'est de bâtir un réseau de policiers réseau. Donc, des policiers qui sont attitrés à des quartiers, des gens auxquels les citoyens peuvent se référer s'ils ont une problématique. Donc, vraiment bâtir le lien de confiance. Puis je trouve que cet aspect-là a vraiment été...
Mais là, il y en a qui vont vous répondre, ouais, mais bon, c'est pas des travailleurs sociaux, les policiers sont là pour faire régner l'ordre, faire respecter la loi, on peut pas leur demander d'être... C'est ça, des travailleurs sociaux qui arrivent avec une petite couverte et puis une petite tisane
Qu'on le veuille ou pas, comme j'ai dit tantôt, 70% des appels au 911 à Longueuil, c'est de nature sociale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben là, c'est pas vrai qu'on va s'en occuper, mais je veux dire, on est comme dans une quadrature du cercle, justement, pour faire baisser peut-être ces demandes d'intervention plutôt de nature sociale, mais si on fait plus de prévention, bien nécessairement, ça va aider. Puis si on bâtit le lien de confiance aussi, bien ça diminue aussi les préjugés qu'il y a envers les policiers, parce que il y en a aussi, tu sais, de part et d'autre. Puis encore
C'était le propos du chef Daguerre. Il dit qu'il veut aider les policiers à mieux comprendre les diverses minorités et les minorités à mieux comprendre le travail de la police. Enfin,
ouais,
il dit
moment,
que ça marche dans les deux sens. Il faut lui
lien,
donner
là,
ça.
Du moment qu'il y a un lien, ben oui, on apprend quelles sont les réalités des différentes populations vulnérables, marginalisées, mais ça fait aussi que les policiers peuvent passer leur message. Quelles sont les lois en vigueur au Québec, au Canada? Quelles sont les valeurs québécoises dans une certaine mesure? Puis en diminuant les préjugés, on fait aussi en sorte que les gens seront peut-être plus prompts à appeler la police s'il y a une situation qui est vécue, qui est problématique. Peut-être que ce réflexe-là aurait moins été présent si le contact n'était pas noué.
Revenons-en à la controverse un instant, parce qu'on n'a peut-être pas tout à fait vidé le sujet. Si je comprends bien, les gens qui ont critiqué ce passage-là, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la façon dont c'est présenté dans l'article. Mais ce sont aussi des gens qui, de façon plus large, trouvent que on est à une époque où il y a une sorte de danger d'instauration du délit de blasphème. Il ne faudrait pas critiquer la religion, surtout pas une d'entre elles dont on a parlé pendant toute cette entrevue, l'islam pour ne pas la nommer. Et par conséquent, ils sont très, très, très chatouilleux, sensibles dès qu'on a l'air de faire ça. Et c'était un peu le cas dans cette portion-là du programme. Encore une fois, si je comprends bien, vous comprenez cette préoccupation-là. Vous n'étiez pas, dans le fond, vous n'étiez pas tout à fait sur la ligne de François Cardinal, là, qui disait « Non, c'est parfait, allons dans les mosquées, les policiers n'ont pas à juger si une jeune fille de 5 ans porte un voile », parce que c'était ça qui était au cœur des objections.
Bien, il y a deux choses là-dedans. C'est vrai que la police n'a pas à apporter de jugement sur la morale. C'est pas une police de la morale, c'est une police qui va appliquer les lois, puis les lois sont les mêmes pour tout le monde, pour les citoyens, peu importe la religion, peu importe la couleur, peu importe le sexe.
Bon, c'est que François Cardinal associe ce principe-là à l'ouverture à l'autre. Il dit, le titre de son éditorial, c'était « Quand l'ouverture à l'autre devient un crime », il blâmait donc les gens qui réagissaient mal à cette affaire-là, en disant, en sous-texte, on comprend que ça veut dire « vous n'êtes pas ouvert d'esprit ».
Bien, moi, ce que j'aimais du texte de M. Cardinal, en tout cas, c'était le premier que je lisais qui remettait le programme, disons, dans sa globalité. Parce qu'à lire les chroniques qui avaient été écrites sur le sujet, c'était exclusivement sur
c'est
le sujet
s'il y avait juste ça.
De la visite à la mosquée. Donc, moi, j'ai trouvé ça très bien que M. Cardinal mette, je l'ai écrit comme ça, mette les points sur les i dans le sens « voici toutes les réalités auxquelles les policiers ont été confrontés, voici les populations qui ont été visitées. » Moi, c'est beaucoup ça qui m'a parlé dans le texte. Puis c'est vrai aussi qu'il y a un bon point quand il dit que c'est deux choses qui sont séparées. C'est pas aux policiers d'intervenir si les lois ne sont pas enfreintes. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire? On est mieux de faire comme si ça n'existait pas ou on est mieux d'y aller, de comprendre aussi quel est le développement des croyances radicales? Comment ça fonctionne aussi pour prévenir? Je sais que la police travaille de concert avec le Centre d'expertise sur les intégrismes religieux, sur la radicalisation de Longueuil. Steve parlait de Martin Geoffroy tantôt, c'est le directeur du centre. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est important qu'on sache de qu'est-ce qui se fait dans cette mosquée-là pour pouvoir intervenir si besoin il y a. Donc, moi, je trouve pas ça du tout incompatible. Je pense qu'il y a des gens qui se sont sentis, évidemment, puis M. Cardinal vit certaines personne dans son texte. Moi, je veux dire, je l'ai simplement partagé sur Twitter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec cette phrase-là spécifiquement. Moi, je pense que...
Vous êtes retrouvé au cœur du débat de l'heure, en fait.
Oui, sur un tweet de 280 caractères. Puis je pense que ça démontre que parfois, on est mieux de prendre le temps justement d'en discuter. Il y a des sujets très sensibles. Puis là, bon, il y en a justement qui m'ont prise à partie parce que j'ai relayé un texte. Je trouve que ça en dit peut-être long sur où on est en ce moment dans notre société. Je trouve ça un peu déplorable. Mais bon, maintenant, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'entretenir avec M. Martineau à ce sujet-là ce matin. Puis au final, on est d'accord. Moi, je pense que c'est tout à fait normal de critiquer les propos de l'imam qui sont totalement inadmissibles. On a le droit de le dire, mais est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance? Moi, c'est ce que je disais dans le texte.
Alors, vous avez mis les points sur les i.
Dans mon texte, dans la presse, parce que oui, on peut critiquer les propos de l'imam. Moi, je trouve ça déplorable qu'on ait choisi de donner une voix médiatique à un personnage comme ça. Personnellement, j'aurais trouvé bien préférable qu'il ne soit pas dans l'article ou qu'on ait donné la parole à un intervenant plus modéré, plus représentatif des musulmans de Longueuil. Mais ceci étant dit, c'est pas moi qui fait l'article. Moi, je défends le programme qui est bon pour les gens de Longueuil parce que je suis députée à Longueuil.
Alors, la mise au point est faite. C'était très intéressant, Catherine Fournier. Merci beaucoup d'être passée nous rendre visite ce matin. Puis on espère vous voir bientôt. Alors, on vous attend plus
plaisir
à la chefferie du Parti québécois ou d'un autre parti, mais on sait jamais. On verra peut-être. Vous avez un projet politique en marche. On en parlera dans une autre entrevue.
Avec plaisir.
Quand vous voulez. Merci beaucoup.
Parfait, merci.
Dans un instant, des nouvelles d'Europe, de France avec Nicolas Vidal. À tout de suite. Alors, le programme de réforme, la réforme des programmes de retraite, c'est le débat sempiternel qui a cours ces jours-ci en France. Le président Macron maille à partir, évidemment, avec les Français là-dessus. Nicolas Vidal, où est-ce qu'on en est chez vous à ce sujet-là? Puis parlons un peu aussi de Ségolène Royal qui, me semble-t-il, met en scène sa rupture avec la Macronie, le macronisme, en vue quoi de d'être candidate à la prochaine présidentielle, est-ce que c'est ça?
Bonjour Nick, ben oui, c'est Ségolène Royal, l'ivresse du pouvoir, la Titi, elle revient actuellement sur la devant de la scène. On rappellera à vos auditeurs qu'elle était ambassadrice des pôles et on s'est rendu compte, encore faut-il, une enquête préliminaire est en cours, mais qu'elle aurait pas forcément utilisé les fonds à bon escient. Voilà, donc je parle au conditionnel parce que l'enquête est en cours. Mais Ségolène Royal, sans peur ni reproche, se remet à chevaucher le cheval de la campagne présidentielle pour 2022. Donc là, voilà, actuellement, sur les plateaux de télé, les grands journaux pour nous expliquer que elle tape à bras raccourcis chez Emmanuel Macron et sa politique néolibérale. Tiens, ça vous dit bien quelque chose, Nick, la politique néolibérale. Voilà, donc c'est Ségolène Royal, pour préciser, elle est partie du Parti Socialiste, enfin de ce qui reste des petites ruines disséminées ça et là du PS, qui n'a plus de PS que le nom. Voilà un peu pour répondre à votre première question, cher Nick. Donc Ségolène Royal revient sur le devant de la scène.
Bon, alors à suivre. Et maintenant, la réforme des retraites. Alors la retraite, c'est pas pour Mme Royal, de toute évidence, mais peut-être pour d'autres. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va finir par marcher? J'entends que le premier ministre Édouard Philippe fait certaines concessions. C'est cosmétique, esthétique, ou il y a un fond là-dedans?
Non, pour l'instant, ça bouge pas rapidement. Ça ne bouge pas du tout, mais grosse épine dans le pied pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron d'ailleurs. L'avis très sévère du Conseil d'État qui vient de rendre un avis, je le disais, extrêmement sévère, qui estime ne pas avoir le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de la réforme et déplore des projections financières lacunaires. Le Conseil d'État, comme son nom l'indique, il conseille l'État. Donc là, c'est marrant parce que le Conseil d'État commence à avoir les mêmes arguments que tous les opposants, les très nombreux opposants à la réforme des retraites. Donc on se rend compte, en plus, le Conseil d'État ne peut pas être considéré comme une officine bolchevique ou radicalisée.
Non, justement, ce sont d'anciens présidents, des grands sages.
Bien sûr.
Oui.
Donc là, c'est vraiment un pied de nez énorme fait au gouvernement Édouard Philippe. Donc cette semaine commence sur les chapeaux de roue pour cette réforme des retraites. Trois nouvelles journées de mobilisation sont prévues, 29, 30, 31 janvier. Donc ce pacte aujourd'hui et cette réforme des retraites est très très compliquée avec ce... Et puis une nouvelle fois, la mobilisation ne faiblit pas concrètement en France ici, avec quand même pas mal de d'actions. Les avocats, vous avez des écoutiers, vous avez des médecins qui ont aussi des chefs de service qui ont démissionné en masse, de 1000 médecins qui ont démissionné en masse. Donc vous voyez quand même ça bouge énormément en France et cet avis du Conseil d'État ne va pas être là pour pouvoir éclaircir l'horizon de plus en plus sombre et épais de notre cher gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà un peu pour la situation ici.
Alors vous avez réussi à faire un micro-topo. Merci beaucoup Nicolas Vidal. Il nous restait à peine 2 minutes pour discuter avec vous, mais on a fait le pari de vous parler quand même parce qu'on connaît votre capacité de synthèse. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit à lundi prochain, 11h.